Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Raphaël, le R de Girafe, et dans le cadre des petits podcasts que nous mettons en place dans le cadre du Club des entreprises 2025 de la Transat Café L'Or, j'ai le plaisir de recevoir François Lambert. Alors François Lambert, c'est une figure de l'ENSM qui va nous parler un petit peu de qui est François Lambert, ce que fait l'ENSM et quelles sont les différentes stratégies qu'on a mis en place pour les clubs autour de la Transat de cette année. Salut François.
Salut Raphaël.
Alors, c'est François Lambert, c'est qui ? Quel est ton parcours ?
Alors, je suis le directeur général de l'École nationale supérieure maritime depuis 3 ans. Je suis administrateur des affaires maritimes de formation. J'ai eu un parcours où j'ai fait des postes en centrale, en interministériel à Paris. Et puis sur le terrain, j'ai été directeur adjoint du port de Dunkerque.
Ouais.
Donc c'est un peu plus au nord.
Ouais. Non, c'est vrai, il faut dire ça aux Parisiens qui mettent souvent Le Havre et Dunkerque juste à côté.
Ah non, mais... c'est des gens qui n'ont pas de goût. Non, mais c'était une très belle expérience. J'ai acquis le goût du terrain. J'avais commencé à Boulogne-sur-Mer comme administrateur des affaires maritimes. Et puis, j'ai aussi travaillé un peu dans l'industrie, puisque j'étais délégué général du groupement l'industrie navale. Et je me plais beaucoup au Havre depuis 3 ans. On est en famille.
Donc c'était assez naturel de prendre la direction de l'ENSM. Finalement, c'était, enfin, en tout cas, c'était dans ton giron.
Je ne sais pas s'il y a des trucs naturels aujourd'hui. Ouais. De toute façon. Non, j'ai candidaté. C'était un poste qui m'intéressait parce que c'était un poste de terrain. C'est la ville du Havre m'intéressait aussi parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a un truc qui se passe au Havre aujourd'hui. On va en parler avec la Transat et d'autres événements maritimes. Et puis le fait qu'on soit sur 4 sites. Il y a Marseille, il y a Nantes, il y a Saint-Malo. Le lien aux jeunes qui me plaît beaucoup, qui ont plein de projets. On parle toujours de cette génération qui a pas les mêmes convictions, qui a pas les mêmes attitudes.
Oui, elle a pas le même logiciel, tout simplement.
Mais... Bah, tout simplement. Mais je pense qu'il faut pas refaire du Benjamin Constant dans le texte tous les quarts d'heure. Enfin, il y a les anciens et les modernes, mais il y a surtout une génération qui vient et on doit s'adapter. Et moi, je suis très très heureux de confronter mes quelques compétences théoriques, mes quelques expériences à ces jeunes qui vont faire le maritime de demain. Voilà, et avec une petite équipe qu'on a, parce qu'on n'est pas très nombreux, on est à peu près 250 à l'école, entre les profs, les agents, je navigue entre les sites.
Et 250 personnes, tu ne me parles pas des étudiants.
Ouais. Étudiants un peu plus, parce qu'en plus on est en train de monter en nombre, dans le cadre d'un exercice appelé le Fontenoy du Maritime, que j'ai bien connu, puisque je l'ai coordonné quand j'étais directeur de cabinet de la ministre de la Mer il y a 3 ans. On a l'obligation de doubler le nombre d'élèves diplômés par l'école entre 2021 et 2027. Donc c'est pas une mince affaire parce que au-delà de pousser les murs, il faut essayer de trouver des gens pour enseigner. Et puis surtout, il faut continuer à être attractif. Parce qu'on est dans un secteur où la bataille des compétences, elle se joue à tous les instants. Il faut être attractif dans les collèges, dans les lycées. Il faut être présent dans les grandes manifestations. Il faut pouvoir faire parler de nous, faire du référencement.
Tu veux dire faire naître des vocations. Parce que quand tu dis attractif, vous n'êtes pas forcément en concurrence avec les écoles de management ou ce genre de choses. C'est quand même des gens qui ont des...
Tout à fait. Faire naître des vocations. Alors, je me comparerais plutôt à une école comme l'École nationale d'aviation civile ou des métiers comme ceux du nucléaire, parce qu'on est sur un diplôme d'ingénieur. Il n'y a pas que des ingénieurs conformes, mais il y a une bataille entre les différentes filières,
oui.
Convictions, appétences qu'on peut avoir. Mais bon, enfin, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait une plus boucle maritime, donc c'est pas moi qu'il faut convaincre.
Donc le cycle des étudiants, c'est quoi ? C'est une année sur Le Havre et Marseille ? Comment ça se passe ?
En fait, c'est différents cycles. Il y a des officiers polyvalents qui font le pont et la machine. Alors c'est très connu parce que au Havre, c'était vraiment très important. L'hydro, c'était presque que ça. Et maintenant, ils font 3 ans à Marseille et ensuite ils viennent pendant 2 ans au Havre, un petit peu moins de 2 ans, parce qu'ils ont une période d'embarquement long qui est entre les deux. Ensuite, on a des cycles monovalents, donc le pont ou la machine. Il se trouve que le Havre a le pont, donc tout le cycle complet, pendant 3 ans. Et eux, comme les polyvalents, on le récupère juste après le bac, pour la majeure partie d'entre eux, en système Parcoursup. Il n'y a plus de concours, donc il n'y a plus de prépa, il n'y a plus tout ça. Et ça fait aujourd'hui à peu près 1200 élèves. J'ajoute la formation.
Quand même, c'est un sacré parc d'élèves quand même.
Ouais, on est à 1404 à cette rentrée, si je compte la formation initiale et la formation professionnelle. Donc les 3 cycles de formation navigant, polyvalent, pont, machine, plus des élèves en ingénieur en génie maritime qui ne sont pas des navigants. Donc ça, c'est toute la formation initiale. Et à côté de ça, on a la formation professionnelle qui se fait dans des périodes plus courtes. Et j'ajoute à ça 3200 stagiaires à peu près par an qu'on a sur des périodes très courtes de 1 à 5 jours sur la formation continue.
Ah oui, donc c'est quand même un vaste parcours qu'il faut arriver à orchestrer, à animer entre les différents sites, les faire remonter. Enfin, vous avez quand même un rôle qui est quand même très, j'allais dire, assez lourd quand même dans leur parcours. Il faut être très présent.
Ah,
il faut...
Bien sûr. Enfin, surtout, j'ai envie de dire surtout avec la formation.
Parce que vous ne les suivez initiale. Pas, ce que je veux dire, c'est que vous ne les suivez pas dans un seul site pendant 5 ans. Vous êtes obligé quand même de les récupérer, de suivre ces formations à distance.
C'est la réforme qui a été portée il y a 15 ans avec l'union des écoles. La réforme, elle était surtout envisagée sous des aspects budgétaires hein, pour rationaliser le nombre de sites. Le Havre s'est battu pour préserver un site, beaucoup battu, ce n'était pas complètement gagné. Hein. Édouard Philippe l'a rappelé aux 15 ans de l'école qu'on a eu il y a encore quelques jours. C'est un moment important aujourd'hui parce qu'au bout de 15 ans, on est dans un devoir d'inventaire aussi. Hein, c'est bien de dire que la fusion, elle a marché. Moi, je suis aussi là pour montrer qu'il y a des choses qui sont très largement perfectibles. L'évolution du diplôme de polyvalence, c'est un vrai acquis qu'on a fait il y a maintenant 2 ans, 1 an et demi. Il est en place depuis plus d'un an. On a des enjeux en matière de formation professionnelle qu'on doit développer pour renforcer la promotion sociale, faire le lien avec les lycées maritimes, aller aussi s'étendre vers d'autres types de formations. Typiquement, l'officier monovalent du Havre, on le fait maintenant dans un lycée maritime à Bastia, pour 22 élèves depuis la rentrée 2025. Donc tout ça, c'est aussi une capacité à montrer par le biais de l'ENSM, qui est un bel objet, un bel opérateur dans le ministère de la mer, que la politique publique de la mer, elle continue de grandir, elle continue de s'étendre. Et pour continuer de s'étendre, elle a besoin aussi de s'ouvrir vers le secteur privé, d'où notre lien renforcé, notre volonté d'être implanté territorialement et d'être au Havre des Havrais, à Nantes des Nantais, Saint-Malo des Malouins et à Marseille des Marseillais. Et en France, de représenter l'ENSM comme un tout, un ensemble véritablement cohérent.
Donc la transition est toute trouvée, parce qu'on allait parler de votre présence pendant la Transat Café L'Or 2025, ce partenariat qui a été mis en place avec DBCOM. Bon, au-delà du festif, on comprend bien que là-bas, on rencontre plein de gens. C'est quoi votre façon d'appréhender cet événement ?
Alors, j'aime bien le « au-delà du festif », parce que
c'est vrai. Oui, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer. Mais...
L'hydro a une réputation à tenir, et je tiens devant les auditeurs à dire qu'elle sera tenue. Effectivement, au-delà du festif, au-delà de ce que ça peut représenter sur les événements qu'on organise, bah pour nous, être vu, c'est une manière de continuer à être attractif. C'est une manière de continuer à être dans ce bel ensemble territorial autour du bassin Paul-Vatine. J'ai envie de dire le premier stand de la Transat. Rejoignez la marine marchande qui est marquée depuis la dernière Transat sur notre façade. C'est pas un hasard. C'est parce que...
C'est la destination à la fois des jeunes qui pourraient avoir cette vocation-là, mais des entreprises aussi, j'imagine.
Exactement, des entreprises également, parce que nous, on collecte de la taxe d'apprentissage. On a une fondation qui peut récupérer aussi un certain nombre de dons. Et on a des actions ponctuelles en matière de promotion de la culture, du sport, de la musique. Tout ça, c'est, on veut le rendre possible. Ce bâtiment noir et marron que les Havrais connaissent comme étant la nouvelle hydro, et dans lequel ils avaient pour la plupart jamais pénétré ou eu le droit de pénétrer, depuis 3 ans, on a essayé de changer ça. C'est ouvert pour les journées du patrimoine, c'est ouvert pour les journées portes ouvertes qu'on organise en janvier à destination aussi du grand public.
Oui, et puis maintenant, j'ai connu l'hydro sur le Cap de la Hève, c'était moins accessible. Enfin, je veux dire, là, vous êtes vraiment dans le paysage, vous êtes implanté dans la ville.
C'est un vrai projet de territoire. Alors ça me dépasse complètement, et je crois que ça dépasse aussi l'hydro elle-même. C'est un pari qui a été gagnant. D'avoir aujourd'hui à peu près 15 000 étudiants sur la ville du Havre. Et c'est formidable de voir comment on est capable de rayonner. Je dis souvent, quand on est sur la terrasse sur laquelle tu viendras avec grand plaisir, on a la possibilité de matérialiser ce concept un petit peu flou des années 2000 qui est l'interface ville-port. Là, on le vit complètement.
Et puis là, pendant la Transat, vous avez quand même une place de choix. Hein. vous êtes au cœur de l'événement. Pour terminer, justement, parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine et puis on pourra rééchanger sur d'autres sujets. On se retrouve le 16 pour l'ouverture. Est-ce que vous, le NSM, vous allez avoir une action ? Alors, il y a le club des entreprises de DBCOM, mais j'ai cru comprendre que vous alliez mener aussi des opérations in situ à partir de la semaine prochaine.
Oui, absolument. On a sorti un programme sur le sujet avec différentes choses. intéressante à la fois à destination de nos élèves, de nos personnels, mais aussi du grand public. Donc on aura une conférence sur le Vélic, on aura une conférence sur la biodiversité avec l'Office français de la biodiversité qui vient. On a François Gabart qui va venir faire une discussion directe avec les élèves. On accueille différentes assemblées générales, les assises de la course au large, on accueille Vela.
Mais ça, c'est pas ouvert au public, ça, c'est sur invitation.
Alors, il y a des choses sur invitation, des choses ouvertes au public. Ce qui est bien, c'est surtout de pouvoir rayonner à partir de cet objet qui est le NSM. C'est-à-dire que le NSM devient, l'École nationale supérieure maritime devient incontournable dans un événement comme celui de la Transat. Et là, on a la matinale de la décarbonation qui va être organisée. On a des expositions. Il y a un jeune artiste havrais, Jérémy Charbot, qui va faire une expo photo. Donc on met aussi en valeur le territoire. Et c'est ça qu'on voulait. C'est donc au cœur de notre contrat d'objectif et de performance. Et pour mieux faire connaître l'école, au-delà des dimensions financières que j'ai pu donner, le fils, la fille d'un chef d'entreprise qui vient sur une soirée se cherche encore un petit peu une vocation. Bon, bah, une discussion familiale peut amener au fait qu'un jour, ils rejoignent le NSM. Et nous, on en serait très fiers. On a fait des actions avec Timothée Paulet, avec la ville du Havre.
Parce que oui, on est une terre de bain. Hein.
Oui, mais moi, je pense que ces marines, elles doivent se rejoindre. C'est-à-dire que on a soupé la différence entre la marine nationale, la marine à voile, la course au large, etc.
La plaisance, oui. Tout ça, c'est...
C'est bien sympathique, mais c'est guerre picrocolline. Elle n'intéresse que nous. Le fait maritime en France, bah, il faut qu'il puisse continuer à grandir. Il le fait grâce à des acteurs qui sont capables de fédérer le secteur. Et ben nous, on doit pouvoir être un de ces acteurs-là. Et au moment de la Transat qui fait que le Havre, que le bassin Paul-Vatine devient la capitale du monde maritime pendant un certain nombre de jours, hein, pendant une quinzaine de jours, bah, il faut qu'on joue pleinement notre partition. Et les équipes de l'ENSM n'ont pas ménagé leurs efforts pour ça. Donc on s'attend à une belle fête avec une apothéose avec le départ qui aura lieu le 26 et où on propose à nos agents et aux élèves de pouvoir venir le voir sur la terrasse, modulo évidemment les conditions climatiques toujours soumises à rude épreuve.
Bon bah écoute, ce sera le mot de la fin. Merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Donc merci, on se retrouve le 16, du 16 au 26. Venez visiter le NSM, allez à la rencontre de l'NSM et puis venez partager cette semaine qui, comme à chaque fois, sera certainement inoubliable. Merci François.
Merci Raphaël, à bientôt.
À bientôt.